Je vais vous dire un truc, il existe dans ce pays un métier que je trouve absolument fascinant. En hiver, chaque matin, quelque part entre Davos et Verbier, il y a des gens qui creusent un trou dans la neige. Ensuite, ils regardent les couches de neige, ils tapotent dessus pour voir laquelle va lâcher en premier, et à la fin, ils publient un bulletin. C'est ce qu'on appelle un bulletin d'avalanche. Et ce bulletin, bah, il vous dit jamais qu'il va y avoir une avalanche. Jamais! Il dit pas demain à 14h à tel endroit ça va partir. Il dit que le manteau est instable, que la couche de fond n'a pas travaillé et que le vent a chargé en grosse neige certaines zones. Il décrit un état et pas un événement à venir. Et c'est exactement pour ça que personne ne l'écoute. Ou en tout cas, pas grand monde ne l'écoute vraiment. Parce que celui qui lit manteau instable et qui voit dehors un ciel bleu et 30 cm de poudreuse ne retient qu'une chose. Il ne s'est rien passé aujourd'hui, jusqu'à maintenant. Alors il y va, et peut-être qu'il a raison. La plupart du temps, il a raison. C'est bien ça le problème. Le problème, c'est que le jour où il a tort de ne pas écouter, ça risque de se compliquer. Eh bien, Wall Street a fait exactement pareil la semaine qui vient de s'écouler. On nous avait vendu trois rendez-vous très importants. Lundi soir, le D-Day économique de Scott Bessent contre l'Iran. Mercredi soir, Nvidia. Vendredi, le premier Jackson Hole de Kevin Warsh. Trois institutions, trois textes. Et la même question posée à chacun ou à chacune de ces institutions. Est-ce que vous savez où vous allez? Est-ce que vous savez ce que vous faites? Le marché a gardé une seule chose de la semaine, je pense, globalement. Une seule phrase, celle de Kevin Warsh, vendredi après-midi. Nous devons être convaincus que l'inflation sous-jacente se rapproche de notre objectif, clairement et à une vitesse suffisante. Sinon, il nous restera du travail. En 20 minutes, les paris sur la hausse des taux en septembre sont passés de 35% à 57,5%. Note de la rédaction, il faut quand même reconnaître que la phrase était une belle phrase politique à souhait. Et ce qu'il a jeté en vrac sur la table, c'est un détroit d'Ormuz que 5 bateaux ont traversé la semaine dernière contre 130 par jour avant la guerre, un PCE qui reste collé à 3,7% au-dessus de la cible depuis 65 mois d'affilée, un blé au plus haut depuis 3 ans à plus 51% depuis janvier, un déficit commercial qui explose de 18% en un mois et une dette fédérale à 40 100 milliards ou presque. Ma thèse de la semaine tient en une phrase. Ces trois grands rendez-vous n'étaient pas des événements, c'était des bulletins, des descriptions de l'état du manteau neigeux. Et le marché les a traités comme si c'était des fêtes, voire des certitudes. Alors la question du jour, la voilà tout simplement. Hein. Quand tout le monde publie un bulletin et que personne ne prend une décision, qui c'est qui part vraiment skier en hors-piste? Bienvenue dans ce Swiss Bliss, je suis Thomas Bayet et nous sommes le 29 août 2026 et on va se rejouer la semaine.
Cette émission vous est présentée par SwissQuote.
Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Lundi soir, à 19h heure suisse, plus ou moins, Scott Bessent a lancé ce qu'il a lui-même appelé un D-Day économique. Nom de code, opération Economic Outcast, sanctions sur 5 secteurs vitaux pour Téhéran, une soixantaine d'entités et de navires sur la liste noire, et surtout la vraie arme, les sanctions secondaires. On ne tape plus sur l'Iran, on tape sur ceux qui parlent encore à l'Iran. Sauf que lorsqu'un journaliste lui a demandé s'il était prêt à couper les grandes banques chinoises du dollar, il a répondu que personne n'était hors de portée, qu'il préférait la diplomatie discrète et qu'il ne citera pas de nom. Et puis il a ajouté cette phrase qui restera mythique, « Pourquoi voudrais-je faire sauter le système financier mondial ?» Voilà, le plus grand débarquement financier de l'histoire de l'humanité est sans nom de pays, sans calendrier, sans cible, un espèce de bulletin, un paix dans l'eau. Le verdict du marché en 12 minutes, le pétrole a baissé directement le soir même. Mardi, l'Iran et Oman ont annoncé discuter d'un couloir maritime temporaire et d'un déminage. Le Brent a lâché encore quelques pourcents. Mercredi, une agence de presse d'État russe rapporte que Washington et Téhéran seraient sur le point de signer un cessez-le-feu. Personne n'a jamais pu le vérifier, et le brut effaçait 5% sur cette seule base. Le même jour, Trump annonce que la marine lui a confirmé que toutes les mines ont été retirées, sans la moindre preuve, et exactement le même jour, le communiqué omanais parle d'un projet conjoint de déminage du détroit. Donc soit les omanais déminent un détroit déjà déminé, soit quelqu'un raconte n'importe quoi. Perso, j'ai ma petite idée sur le coupable. Jeudi, les alliés des États-Unis expliquent en privé qu'il resterait entre 80 et 150 mines qui se battent dans la nature dans le détroit d'Hormuz. Et vendredi soir, Trump annonce que l'Amérique prend le contrôle majoritaire de plus de 65 milliards de barils de réserves vénézuéliennes, ce qu'il appelle en majuscule le plus gros accord pétrolier de l'histoire de l'humanité. Ce qu'on peut aussi appeler un énorme braquage. Bilan, le Brent a fini la semaine à 88,28. Maintenant, essayez de mesurer un peu la chose. Avant la guerre, il y avait environ 130 navires par jour qui passaient le détroit d'Hormuz. Un bateau toutes les 11 minutes, jour et nuit, week-end compris. Et depuis des décennies, un cinquième des hydrocarbures de la planète. Je pense que celle-là, vous l'avez déjà entendue. Mais mardi dernier, il y a 5 bateaux qui sont passés. Et puis alors, un dernier chiffre pour boucler ce chapitre. Aux États-Unis, le gallon d'essence était vendredi à 4,09, plus 27% sur un an, à 10 semaines des élections de mi-mandat. Le résumé du baril sur la semaine est tout simplement affiché en néon clignotant devant chaque station-service des États-Unis. Et puis alors, puisqu'on parle d'or, mercredi 14h30, le PCE de juillet est sorti. L'indice d'inflation préféré de la réserve fédérale américaine a été publié, 3,7%. On attendait 3,6. La version core, elle reste inchangée à 3,3. L'écart mensuel avec les attentes, c'est 0,1%. Sur un budget de ménage à 5000 francs par mois, 0,1%, ça fait 5 balles, 2 cafés. Et encore, hein, ça dépend dans quelle ville vous prenez le café. À Genève, ça ferait un café et encore, il serait dégueulasse. Réaction du marché suite à cette annonce, que dalle. Je cite les dépêches du jour. Les indices n'ont pratiquement pas réagi à l'inflation. Le 10 ans a bougé d'un point de base. Tout le monde regardait ailleurs parce que oui, ce même jour, Nvidia publiait 3 heures plus tard. Et puis, 48 heures après, un monsieur est monté sur une estrade dans le Wyoming et il a lu ce même chiffre à voix haute. Et il a dit, les lectures de l'été ne me disent pas que les tendances sous-jacentes se sont vraiment améliorées. Les lectures d'été. J'adore. Non, j'adore tout simplement. C'est poétique, c'est bucolique. Il rappelle donc que l'inflation est au-dessus de la cible depuis 65 mois et il ajoute qu'il serait bien en peine de décrire les conditions financières actuelles comme restrictives. Résultat, le 2 ans a bondi de 12 points de base, le dollar s'envole, l'or se ramasse 3% dans la gueule en une séance. Même chiffre, deux réactions, mais à 48 heures d'écart. Alors soyons honnêtes, hein, juste 3 minutes. C'est pas le PCE qui a bougé le marché, tout le monde le connaît depuis mercredi. C'est un homme qui l'a relu à haute voix. Et j'insiste sur le relu. On n'a pas réagi à une donnée, et on a réagi à la lecture de la donnée. Et si vous cherchez pourquoi la volatilité est morte cette semaine alors que tout devrait la faire hurler, c'est probablement que le marché n'attend plus les faits. Il attend qu'on lui dise quoi penser des faits. Il faut lui prendre la main au marché. Il faut le guider. On va lui acheter un labrador au marché, moi je vous le dis. Et pendant qu'on discutait de ce 0,1% sur un chiffre de juillet, eh bien il se passait ceci. Le blé a touché vendredi son plus haut depuis 3 ans. Plus 10% sur la semaine, plus 20% sur le mois d'août, plus 51% depuis le 1er janvier. Le maïs fait plus 22 depuis le 1er janvier, le soya plus 22 également. Motif, les attaques en mer Noire ont quasiment arrêté les expéditions de céréales par les ports de la mer Noire et de la mer d'Azov, qui représentaient quand même 70% des exportations de blé russe. Le PCE de juillet, c'est une photo du passé. Le blé de vendredi, eh bien, c'est une photo du PCE du mois de novembre. Jusqu'ici, l'inflation américaine, c'était une histoire d'énergie, tout le monde était d'accord, la Fed y compris. Sauf que l'énergie a baissé de 5% cette semaine, plus ou moins 4, je crois même, et que la nourriture vient de prendre le relais. Le robinet n'est plus le même, mais risque de faire tout aussi mal. Et là, on arrive au vrai sujet de la semaine, celui dont on parlera certainement encore dans les mois qui vont venir. C'est pas Warsh, ni Nvidia, ni Hormuz, c'est beaucoup plus ennuyeux, et c'est exactement pour ça que c'est important qu'on en parle. Les niveaux tout d'abord. Vendredi soir, le 2 ans américain termine à 4,35 en hausse de 12,5 points sur la seule journée de vendredi. Le plus gros rebond enregistré à Jackson Hole depuis au moins 15 ans. Le 10 ans finit à 4,73, pas loin des sommets de 2007, et le 30 ans, 5,21, inchangé. Relisez ces chiffres parce que c'est pas le niveau qui compte, hein. C'est le niveau de contradiction qui compte. Le patron de la banque centrale la plus puissante du monde a fait le discours le plus haut quiche qu'on ait entendu depuis bien des années. Le marché le croit, le 2 ans bondit, le dollar monte, l'or s'effondre. Tout fonctionne comme dans les manuels. Et la partie longue de la courbe, elle, bouge pas d'un cheveu. Par contre, ça, dans un manuel, normalement, ça se passe pas comme ça. Quand un banquier central annonce qu'il va combattre l'inflation, le 30 ans fait quelque chose. Soit il baisse parce qu'on lui fait confiance, au banquier central, soit il monte parce qu'on craint pour la croissance. Là, il a haussé les épaules et il a continué de scroller sur TikTok comme un ado de 16 ans qui se fout pas mal de ce que vous êtes en train de lui dire. Ce que le 30 ans américain est en train de dire à Kevin Warsh, c'est « Écoute, je veux bien te croire, mon petit Kevin, je veux bien te croire sur l'inflation, mais franchement, l'inflation n'a jamais été mon problème. Mon problème, c'est le nombre de gens qui font la queue devant le même guichet pour emprunter du pognon !» Et il a raison, le 30 ans, parce qu'ils sont trois dans cette queue maintenant. L'État américain, avec 2000 milliards de déficit annuel et une dette qui ferait peur à Elon Musk, la guerre, qui se finance de la même manière depuis 4000 ans, et le troisième, le petit nouveau, et c'est lui qui change tout, les data centers. Les quatre grands de la tech ont dépensé 125 milliards en équipement IA en 2021. L'an prochain, ça sera 1000 milliards, à peu près la moitié de tout l'investissement du S&P 500. Et une grande banque américaine projette plus de 5000 milliards de dépenses en data centers d'ici 2030, dont 2500 financés uniquement par le marché du crédit. Pendant 3 ans, l'intelligence artificielle a été financée par des cash flows. Des sociétés hyper rentables prenaient l'argent qui rentrait et le réinvestissaient dans des machines. C'était sain. Aujourd'hui, elles se financent par la dette. Obligations à 40 ans chez Alphabet, emprunt auprès des ménages japonais chez SoftBank, placement d'actions avec Decote chez Alibaba. Alors maintenant, élargissons un peu le zoom, on va dire. La Banque de Corée a monté ses taux jeudi, deuxième hausse consécutive. Le numéro 2 de la Banque du Japon a laissé la porte ouverte à toutes les fenêtres pour monter les taux en septembre. Pendant que le Nikkei compte à 66 400, ce qui n'est franchement pas le graphique d'un pays qui redoute une hausse des taux. Les swaps australiens intègrent un tour de vis d'ici Noël. Les néo-zélandais, eux, ils parlent de la semaine prochaine. Isabelle Schnabel, au directoire de la BCE, estime même qu'un niveau de taux plus élevé sera nécessaire en Europe. Et vendredi, les États-Unis ont enquillé la file d'attente. Tout le monde resserre, partout, absolument partout, peut-être pas en Suisse, notez bien, et tout ça en même temps. Et personne n'appelle ça un cycle mondial de resserrement parce que ça ferait désordre. On préfère dire que les banques centrales normalisent. C'est plus joli, bon ça veut dire la même chose, mais c'est plus joli. L'argent redevient cher sur toute la planète au moment précis où on construit la chose la plus coûteuse en capital de l'histoire industrielle et on la construit à crédit. Vous voyez la foule qui se dirige en même temps vers la même petite porte, là, hyper étroite, au fond du stade? Alors revenons à notre trou dans la neige. Ce qui fait partir une plaque, c'est jamais la neige tombée le jour même. C'est la couche fragile en profondeur, celle qui s'est formée en novembre, sur laquelle tout le reste s'est empilé pendant l'hiver. Bah, on la trouve seulement en creusant. La couche fragile de 2026, elle est là. Elle s'appelle « On emprunte 5000 milliards pendant que l'argent redevient très très cher ». Et personne n'a creusé pour voir ce qu'il y avait en dessous. Alors je viens de vous dire que le 2 ans avait bondi de 12 points, que le 30 ans n'a pas bougé et que la courbe s'aplatissait. Alors si vous avez décroché à ce moment-là, vous avez peut-être eu raison parce que dit comme ça, ça veut rien dire. Alors, on va faire un exemple différent, beaucoup plus concret. Vous prêtez votre voiture à votre voisin pour la journée. Vous lui demandez de refaire le plein. C'est le tarif, tout le monde trouve ça absolument normal. Maintenant, si vous lui prêtez votre voiture pour 1 an, alors là, vous allez vouloir autre chose. L'assurance, les pneus, une garantie, peut-être même un petit peu d'argent. Et maintenant, pour 30 ans, à ce stade, vous discutez même plus d'un prix. Vous vous demandez déjà qui sera encore là dans 30 ans et si les voitures existeront encore. Voilà, en gros, c'est ça la courbe des taux. Le tarif de la confiance selon la durée du prêt. Rien d'autre. Et cette semaine, le tarif 2 ans a nettement augmenté. Le tarif 30 ans n'a pas bougé d'un centime. Les gens acceptent de payer plus cher pour tout de suite et pas un franc de plus pour du très long terme. Et ça veut dire une chose très précise. Le marché croit Warsh sur ce qu'il contrôle et il a déjà mis un prix sur tout ce que Warsh ne contrôle pas. Bon alors, avant que vous me disiez que je ne parle que de choses déprimantes, parlons de Nvidia. Mais on va faire vite, hein, parce qu'on en a fait le tour toute la semaine. 96,2 milliards de chiffre d'affaires quand on attendait 92, les centres de données, les data centers en hausse de 117% sur 1 an, et une directrice financière qui annonce calmement 70% de croissance sur l'exercice 2028, quand Wall Street tablait seulement sur 40. Mais ce qui m'a plus surtout au milieu de tout ça, c'est les deux autres choses. La première, c'est l'honnêteté. Colette Kress est montée au créneau pour expliquer que la marge brute allait passer de 75 à 74% et toucher à un point bas vers 71% en janvier, parce que la société se fait racketter sur le prix de la mémoire. Elle l'a dit d'entrée de jeu, nous voulons être directs là-dessus plutôt que de laisser la question traîner. Ça fait 20 ans que j'écoute des conf-calls après les résultats. Une direction qui sort la mauvaise nouvelle elle-même en premier sans qu'on lui demande, c'est rare au point d'être remarquable. La deuxième chose qui est importante, que je trouve importante, que personne n'a vraiment relevé, c'est que le titre a pris 8,7% jeudi, et dans le même mouvement, 39 analystes sur 60 ont relevé leurs estimations de bénéfices. C'est plus de l'anticipation ou de l'analyse, c'est du suçage de roue. Résultat, le multiple de valorisation de Nvidia a baissé le jour où le titre a monté de 8,7% et de 16 fois à 15 fois. une action qui monte et qui devient moins chère le même jour, vous n'aurez pas ça tous les mois. Et ça devrait vous rappeler que le prix et la valeur sont deux conversations totalement différentes. Alors qu'est-ce qui relie tout ça ? Ben revenons encore une fois au trou dans la neige. Vous avez la même coupe sous les yeux, les mêmes couches, les mêmes mesures, et il y a deux façons parfaitement honnêtes de lire ce que vous voyez. L'histoire numéro 1, l'inflation américaine était un problème d'énergie, et l'énergie baisse. Le Brent perd 4% et des poussières sur la semaine, un couloir maritime se négocie à Hormuz, et l'Amérique vient de mettre la main sur une montagne de barils au Venezuela. La Fed a repris le volant et le marché l'a cru en 20 minutes, ce qui est la définition même de la crédibilité. L'économie va bien, la consommation tient et le leader mondial des semi-conducteurs vient de promettre 70% de croissance. Donc, on monte. Le S&P a fini la semaine en hausse, le Dow Jones aussi, le DAX signe un nouveau record en clôture, tout va bien. Bon week-end à tous. La deuxième histoire, eh bien, c'est que l'inflation est à 3,7% depuis 65 mois et vient de changer de carburant. L'énergie passe la main à la nourriture, avec un blé à plus 51% sur l'année. Toutes les banques centrales de la planète resserrent en même temps, pile au moment où on emprunte des milliards et des milliards pour construire des data centers et des data centers. Le 30 ans n'a pas bougé, malgré le meilleur discours possible, et la VIX a fini au plus bas depuis le 31 décembre. Les deux histoires sont vraies. Chaque chiffre que je viens de citer est parfaitement exact, vérifiable et sorti la même semaine. Donc c'est pas une bagarre entre optimistes et pessimistes, c'est le même manteau neigeux lu par deux personnes différentes. Alors pourquoi est-ce que tout le monde choisit la première ? Bien parce que c'est pas du déni. Le déni, ce serait dire que le blé n'a pas monté et personne ne dit ça. C'est beaucoup plus subtil et beaucoup plus efficace. C'est de la requalification. On ne nie pas la mauvaise nouvelle, on la reclasse dans la colonne d'à côté. Alors je vous cite trois exemples de la semaine, et les trois sont techniquement défendables. Warsh menace de monter les taux, mauvaise nouvelle pour les actions, requalification, il a retrouvé sa crédibilité, donc l'inflation sera contenue, donc c'est bon pour les actions. Les indices montent. Nvidia annonce que sa marge brute va tomber de 75% à 71%, une marge qui perd 4 points, c'est une mauvaise nouvelle depuis que la comptabilité existe. Requalification, c'est la preuve de la demande qui est trop forte, plus 8,7%. Salesforce publie un bénéfice en hausse de 87%, dont 2,6 milliards viennent de la réévaluation comptable d'une participation d'une société qui n'est pas cotée en bourse. 0 $ encaissé, 0 client supplémentaire. Requalification, l'intelligence artificielle crée de la valeur, c'est indubitable. Résultat, plus 22,6%, la plus forte séance de toute l'histoire de Salesforce. Une requalification, c'est de l'analyse, c'est aussi de la nuance. Mais quand absolument toutes les mauvaises nouvelles finissent classées en bonnes nouvelles à la suite pendant 5 séances d'affilée, là, c'est plus d'analyse. C'est un skieur qui a lu le mot instable et qui a décidé dans sa tête que ça voulait dire poudreuse. On attaque avec les performances de la semaine qui sont remportées par la Bovespa qui prend 2,7%. De l'autre côté, vous avez l'argent qui perd 4,3%, le pétrole qui perd 4,16% et l'or qui se fait taper dessus à 3,77% à cause des commentaires de Kevin Warsh vendredi. De l'autre côté, le DAX qui bat un record historique, Shanghai qui s'en sort pas mal, le Nasdaq qui survit à plus 0,85%, le Dow qui prend 0,49% et de l'autre côté, vous avez la Suisse qui perd 0,4%, le CAC 40 qui se fait défoncer sur la semaine en baisse de 1% à cause de toute la politique, on y reviendra. Et puis de l'autre côté, vous avez encore, grosso modo, le Dow Jones qui s'en sort pas trop mal avec 0,53% de hausse. Sur le SMI, eh bien, c'est UBS qui prend la tête. On va y revenir dans les vedettes de la semaine, suivi par Richemont, Partners Group, et puis de l'autre côté, Roche Novartis qui baisse sans grande raison. Et au milieu de tout ça, vous avez encore les assurances qui tiennent le coup. Au milieu du classement, vous avez Swiss Life, Zurich, Swiss Re, qui eux continuent à relativement bien performer sur la Suisse, mais pour être honnête, moins 0,4%. On a tenté de casser de nouveau les résistances, mais on n'y arrive pas pour l'instant. Le SMI termine donc la semaine à 14 399,77. Sur la semaine, c'est 0,4% de baisse et la trajectoire est l'inverse exact de ce qu'on aurait pu parier. Mercredi, l'indice est monté jusqu'à 14 606 en séance. Son point haut de la semaine atteint le jour du PCE et quelques heures avant les publications de Nvidia. Jeudi, il repère 1% d'un coup à cause de Nestlé, Novartis et Roche, tous les trois en même temps et sans la moindre nouvelle. Et vendredi, le jour où le patron de la Fed annonce qu'il va probablement monter les taux, la bourse suisse termine en hausse. Autrement dit, le SMI a fait son plus haut avant les nouvelles et sa pire séance sans nouvelles du tout. La première vedette de la semaine, c'est Givaudan, le géant vermelon des arômes et des parfums si vous avez mangé cette semaine quelque chose qui n'était pas un légume bio, il y a une chance sérieuse qu'un morceau du goût vienne de chez eux. 4 séances, 4 rumeurs, lundi rien, mardi le titre monte gentiment, jeudi il se prend près de 3% dans les dents et termine lanterne rouge du SMI, vendredi il rebondit et finit dans le trio de tête. Le motif de la claque de jeudi, Morgan Stanley a dégradé le titre et ramené son objectif de cours de 2950 francs à 2900, une baisse d'objectif d'1,7%, le titre en a perdu 3. Maintenant, le détail que personne n'a lu. Mardi, deux jours plus tôt, on apprenait que Givaudan, DSM Firmenich et leur concurrent American International Flavors and Fragrance font l'objet en Inde d'une enquête des autorités de la concurrence. Soupçons, entente sur les prix dans les parfums. C'est un thriller d'espionnage. C'est incroyable. Une enquête pour cartel dans un des plus grands marchés du monde contre les trois acteurs qui dominent le secteur. Réaction du titre mardi, plus 0,6%. Donc, pour résumer, une enquête antitrust internationale fait monter l'action et un analyste qui baisse son objectif de 50 francs l'a fait chuter de 3%. Le marché, il lit plus les dossiers, il lit les post-it qui sont collés sur les dossiers, ni plus ni moins. Seconde vedette, Nestlé. Celle-là n'a fait aucun titre cette semaine, aucun gros titre, et c'est pourtant elle qui explique la séance de jeudi. Nestlé a touché son plus haut de l'année à 87,09 au mois de juillet, juste avant les publications trimestrielles. Depuis, l'action n'a pratiquement fait que baisser. Jeudi, la banque cantonale de Zurich a abaissé sa recommandation de surpondérer à pondérer. Le titre a perdu 1,7% et le semblant de tendance haussière qu'on avait a clairement été cassé. On le voit sur le graphique, on l'a vu sur le graphique il y a quelques instants. Et comme Nestlé pèse ce qu'elle pèse, le SMI a cotisé aussi. C'est aussi mécanique que ça. Mais il y a beaucoup plus intéressant à dire et il faut aller le chercher ailleurs que dans les communiqués de presse de la WP en Suisse. Alors, voilà la comparaison de la semaine et je vous demande juste 30 secondes d'attention. La plus grande entreprise alimentaire du monde est à son plus bas depuis juillet et se fait dégrader par une banque cantonale pendant que toutes les matières premières qu'elle achète pour fabriquer ses produits font leur plus haut pluriannuel la même semaine. Alors, c'est pas une coïncidence, hein. C'est la même information vue de deux manières différentes. D'un côté, l'inflation alimentaire qui redémarre. De l'autre, une action qui vous dit très calmement que non, cette fois, ils pourront pas tout répercuter sur le consommateur. Parce qu'en face, le consommateur a déjà arbitré. Il a commencé à acheter les marques premier prix. Et aux États-Unis, la lanterne rouge du S&P vendredi, c'était un producteur de dinde et d'apéritifs qui a massacré ses prévisions annuelles. Le marché n'a pas besoin du prochain PCE. Il l'a déjà voté, décidé, intégré. Il l'a fait dans le cours de Nestlé, de manière indirecte. Et la troisième star, c'est la valeur qui occupe tout le pays depuis des mois sans que rien ne bouge dans le dossier. Vendredi, UBS a fini en hausse de 1,7% au plus haut depuis plusieurs années. Le feuilleton, vous le connaissez, la Confédération réclame plusieurs milliards de fonds propres supplémentaires à la banque aux trois clés qui expliquent poliment que cela handicaperait face à la concurrence mondiale. Ça traîne depuis des mois avec la vivacité d'un poisson mort. Et dimanche dernier, dans le Sonntag Zeitung, Oswald Grubel, ancien patron du UBS et du Crédit Suisse, est sorti du bois pour dire que la Confédération avait raison. Et surtout que Karine Keller-Sutter avait raison. Quand l'homme qui a dirigé les deux grandes banques suisses vous explique que l'État a raison de demander plus de fonds propres à la survivante, c'est pas un avis. C'est un témoignage. Mais c'est pas ça qui m'a fait sursauter cette semaine. Ce qui m'a fait sursauter, c'est une ligne dans une dépêche de vendredi soir. UBS a fait une entrée remarquée sur le marché obligataire chinois avec l'émission d'un emprunt de près de 2 milliards de yuan sur 5 ans. Alors remettons la semaine dans l'ordre après un coup de sac. Lundi soir, le secrétaire au Trésor américain annonce que tout pays continuant de commercer avec l'Iran deviendra un paria mondial et que personne n'est hors de portée des sanctions américaines. La question qu'on venait de lui poser portait explicitement sur les grandes banques chinoises et sur le fait de couper, de les couper du système en dollars. Vendredi, la première banque suisse et unique va emprunter 2 milliards de yuan à Pékin. La même semaine, hein, sur la même planète. Alors c'est pas un scandale, hein. C'est même pas une provocation. C'est parfaitement légal et probablement très bien vu à Zurich. C'est simplement le signe le plus clair de la semaine que le monde financier se réorganise en deux tuyauteries parallèles et que les gens dont c'est le métier de savoir où passera l'argent dans 10 ans sont en train tranquillement de poser une prise dans les deux murs. On passe maintenant au en vrac de la semaine. Stadler Rail a livré un premier semestre solide avec un chiffre d'affaires en hausse de 40% à 2 milliards de francs, au moment où le monde entier redécouvre que construire des infrastructures coûte cher et prend du temps, la Turgovie fabrique des trains depuis toujours. Finetool a renversé la vapeur avec un bénéfice net de 3,2 millions, là où il y avait une perte de 5 millions un an plus tôt. La direction table sur une marge d'exploitation autour de 2,5%. Gurit, le producteur de matériaux composites saint-gallois, améliore nettement sa rentabilité et relève ses objectifs annuels. MindMaze Thérapeutique, la biotech lausannoise, a bouclé son semestre dans le rouge une fois de plus. Elle est financée à hauteur de 5,3 millions et elle estime pouvoir générer 200 millions de recettes d'ici à 5 ans. Kudelski a réduit ses pertes. Le retour de la croissance ne sera pas pour cette année, mais l'entreprise assure se positionner là où sont les opportunités et avant tout, bien sûr, dans l'intelligence artificielle. Meta Zug a réduit sa perte de moitié et évoque des perspectives prometteuses à moyen long terme, sans articuler le moindre calendrier. Orior a ravalé une partie de ses ambitions annuelles après le non-renouvellement de contrats en Allemagne et aux Pays-Bas. Vous voulez savoir à quoi ressemble une inflation alimentaire une fois arrivée dans un compte de résultats? Bah, ça ressemble à ce qui se passe avec Orior. Arbonia a dû revoir sa copie à cause d'une pénible migration informatique chez sa filiale allemande. Flughafen Zurich a vu son chiffre d'affaires progresser, mais sa rentabilité stagne, freinée par les frais de mise en service du nouvel aéroport de Noida, en périphérie de New Delhi. L'aéroport de Zurich pénalisé par un aéroport indien, la mondialisation, c'est quand vos frais généraux sont à 6000 km d'ici. Remonde Energy annonce une baisse de ses tarifs d'électricité de près de 6% dès 2027, parce que les coûts d'achat ont été sécurisés avant le début du conflit au Moyen-Orient, pour une fois que c'est un autre avantage. Intershop a vu ses revenus locatifs, ses revalorisations et ses excédents opérationnels prendre, je cite la dépêche, le chemin de la cave. J'adore quand les agences de presse se lâchent. Leontech faisait bonne figure malgré l'affront d'un actionnaire qui réclame un plafonnement de la rémunération variable du conseil d'administration. Et Accelleron, le constructeur de turbocompresseurs, annonce un bond de ses recettes, relève ses perspectives et le titre chute le jour de la publication. Mais le lendemain, sans le moindre élément nouveau, sur exactement les mêmes chiffres, il remonte encore plus fort. 24 heures d'écart, zéro information supplémentaire. Si vous cherchez une définition simple du marché à court terme, c'est celle-là. Maintenant, une statistique suisse cette semaine, et elle est bonne. L'emploi a fortement progressé au deuxième trimestre, plus 2% à 5 698 000 postes, selon l'Office fédéral de la statistique. Plus 2% pour l'emploi dans un pays déjà au plein emploi, dans une année où l'Europe patine et où l'Amérique se bagarre avec ses propres voisins, c'est excellent. Vraiment excellent. Et puis alors, on tourne la page et on lit le communiqué de Suisse Mécanique, la fêtière des machines, des équipements électriques et des métaux. Leur indice du climat des affaires est remonté à environ moins 20 points au deuxième trimestre, son meilleur niveau depuis printemps 2024. Moins 20, le meilleur niveau depuis 2 ans. Et 2/3 des entreprises continuent de juger leur situation économique défavorable. Alors on se réjouit, hein, sincèrement. Mais on se pose quand même la question qui dérange. Quand une industrie va mieux et que 2/3 des patrons vont toujours mal, est-ce que la reprise arrive ou est-ce qu'on s'est simplement habitué à une situation pourrie? Mis à part ça, cette semaine, il y a 3 anomalies qui, prises séparément, ne veulent rien dire. Et qui, prises ensemble, racontent quelque chose d'assez inconfortable. Premièrement, la VIX. Le fait, c'est que l'indice de la peur a fini vendredi autour de 14,4, son plus bas niveau depuis le 31 décembre, moins 22% en 6 semaines. Ce que ça devrait signifier, rien de spécial n'est attendu dans les 30 jours. Ce que ça signifie vraiment, c'est que le 31 décembre, le marché pariait sur 3 baisses de taux en 2026. Aujourd'hui, il parie sur une hausse en septembre et pratiquement une deuxième d'ici décembre. Le scénario a été retourné à 180 degrés en 8 mois et le niveau de peur est exactement le même. On peut appeler ça de la sérénité. On peut aussi appeler ça du déni. Deuxièmement, le 30 ans qui ne bouge pas. Le fait, c'est que Warsh a fait le discours le plus dur possible sur l'inflation, le plus haut quiche. Le 2 ans bondit, le 12 points de 12 points de base et le 30 ans termine inchangé. Ce que ça devrait signifier, c'est que la Fed a repris le contrôle. Ce que ça signifie vraiment, c'est que la Fed a gagné une bataille que le marché obligataire n'était pas en train de livrer. Et c'est une mécanique que j'ai vue fonctionner. Déjà, par le passé, en 2005 et en 2006, la Fed de Greenspan avait monté ses taux 17 fois d'affilée et le taux à 10 ans n'a pas bougé. Greenspan lui-même a appelé ça une énigme devant le Congrès. Tout le monde avait trouvé ça fascinant, on a écrit des thèses là-dessus et la conclusion de l'époque était que la Banque centrale contrôlait très bien la situation puisque les taux longs restaient sages. Ce qui était vrai d'ailleurs, ça a duré 2 ans. Et puis les taux longs se sont mis à raconter autre chose et on a appelé ça la crise des subprimes. Alors je dis pas que c'est la même chose, hein. Bien sûr, ne vous méprenez pas, je suis pas bériche, je suis constructif. Je dis que quand la partie longue de la courbe refuse d'écouter la Banque centrale, c'est pas parce qu'elle est distraite, hein. C'est parce qu'elle regarde un autre problème. Troisièmement, les assurances. Le fait, c'est que les spreads de crédit des grandes entreprises technologiques restent relativement serrés. Sur le marché obligataire classique, tout va bien. Mais le prix de l'assurance contre un défaut d'Alphabet a doublé, par exemple, depuis le début de l'année. Même chose chez Meta, même chose chez Amazon, même chose chez Nvidia. Ce que ça devrait signifier, rien du tout, parce qu'on part de tellement bas que les niveaux restent très 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 loin du moindre seuil d'inquiétude pour les signatures de cette qualité. Mais ce que ça signifie vraiment, c'est que les deux marchés regardent la même entreprise et ne racontent pas forcément la même histoire. Il y a le marché où on prête, où on dit que tout va bien, et il y a celui où on s'assure qui a doublé son tarif en 8 mois. Même bilan, même chiffre, qualification différente. Stress pas pareil. Et ça aussi, je l'ai vu. En 2007, les indices actions faisaient des records au mois d'octobre, pendant que le coût de l'assurance au crédit hypothécaire américain se tendait depuis des mois et des mois. Ceux qui prêtent voient les choses en dernier, ceux qui assurent les voient en premier, parce que c'est eux qui payent. Ça fonctionne remarquablement bien, jusqu'au jour où quelqu'un demande à toucher l'assurance. Donc l'économie américaine va bien, le chômage est à 4,1%, ce qui est bas, la consommation tient plus ou moins, l'investissement des entreprises accélère. Warsh lui-même, qui n'est pas un optimiste de naissance, s'est dit impressionné par la performance générale de l'économie américaine. Et les quatre grands de la technologie n'ont pratiquement pas de dette nette. Ce ne sont pas des startups qui brûlent du cash, ce sont les entreprises les plus rentables jamais construites aux États-Unis. Il y a même un travail que j'ai lu cette semaine et que je trouve solide. Sur 250 ans d'histoire américaine, l'économie a toujours absorbé les grandes vagues d'investissement jusqu'à environ 25% de sa production annuelle avant que les choses tournent mal. Les chemins de fer dans les années 1860, l'électrification dans les années 20, Internet à la fin des années 90, et sur ce critère, l'intelligence artificielle n'atteindrait la zone dangereuse qu'au début des années 2030. Donc on a encore un peu de temps avant que la musique ne s'arrête. Ce que je dis, moi, c'est que cette semaine, trois institutions ont publié des bulletins qu'aucune n'a pris de décision, que le marché a choisi de lire les trois de la manière la plus confortable possible. Lundi, ça sera la dernière séance du mois d'août, et si rien ne s'écroule, le mois se classera parmi les meilleurs de l'année. Mardi, on aura l'ISM manufacturier, vendredi, le rapport sur l'emploi américain de très loin, le rendez-vous du calendrier. Bon week-end à tous, profitez du beau temps, allez marcher, profitez des derniers rayons de soleil du mois d'août, rendez-vous samedi prochain pour un nouveau Swiss Bliss, où nous commenterons très très probablement un nouveau bulletin publié par une nouvelle institution expliquant que le manteau est instable, mais que rien n'indique un départ imminent d'une plaque de neige, et où quelqu'un, quelque part, aura décidé que ça voudra quand même dire « poudreuse ». Je voudrais encore m'excuser pour le retard aujourd'hui, je publie beaucoup plus tard, j'ai eu cette caméra à la con qui m'a flingué ma journée, j'ai dû recommencer trois fois la vidéo, donc désolé du décalage, mais bon, le contenu reste le même. On termine encore avec le chiffre du week-end, 40 088 milliards de dollars de dette fédérale américaine, ils ont passé les 40 000 milliards il y a 12 jours, 88 milliards en 12 jours, vous ferez le calcul de ce que ça donne à Noël. Et à mon anniversaire, j'invite à manger celui qui trouve le chiffre exact. On like, on commente, on partage et on s'abonne à la chaîne. Et lundi, comme d'habitude, eh bien, ce sera Morning Bull Live. Bon week-end à tous et à lundi. Allez, bye bye.
Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.